Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI pour entendre parler de football, mais entendre parler aujourd'hui de Ligue des Champions, puisque la compétition revient après les journées internationales et quelques journées de championnat. Nous commencerons donc par Rennes. Rennes condamnée à l'exploit pour survivre dans la compétition phare de la scène européenne. Pour cette première aventure en Ligue des Champions, une victoire suffirait sans doute à rassurer les Bretons de Julien Stéphan. Mais les Blues de Chelsea, en passe de se qualifier dès ce soir, semblent bien supérieurs. Éric Mamrut est sur place, il nous en dira plus. Pour le PSG, un match aux allures de finale. Les Parisiens jouent leur survie en Ligue des Champions. Ils doivent gagner ce soir contre le RB Leipzig sous peine de voir s'approcher leur élimination, ce qui serait une première sur l'ère du PSG version Qatar depuis 2011. Mais Neymar et Mbappé sont là, heureusement, pour doper l'équipe. Le Barça à la dérive, pas sur la scène européenne, mais en Liga, où s'accumulent les contre-performances, une indigente 13e place dans le championnat, une dynamique de club embourbée dans les querelles de vestiaires et de dirigeants. Antoine Griezmann a tenu à mettre les choses au point, alors que Lionel Messi ne jouera pas à Kiev, préservé en Catalogne. François David sera en direct avec nous depuis Barcelone. Dans ce studio, pour l'instant, aujourd'hui avec nous, eh bien, il y a Eric Rabessandratana. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Comment allez-vous Eric?
Bah ça va pour l'instant, comme d'habitude.
Non, la dernière fois, vous étiez très optimiste avant Manchester.
Ouais, bah, j'ai vite déchanté, donc aujourd'hui je suis normal, on va dire. Je prends un peu de recul, comme ça je suis tranquille.
Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là, avec aussi Philippe Doucet. Bonjour Monsieur Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Tout va bien?
Tout va bien.
Tout va bien. Alors, Marie-Amélie Motte m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Giroud's already on the field and he might be in here from Ziyech. Oh, it's a good save from Gomez. Chance for Olivier Giroud. Three wins in a row. All the numbers are looking good for Frank Lampard at the moment. It's also six clean sheets in seven. Chelsea 3, Rennes 0.
Ce soir aurait dû être un jour de fête en Bretagne. Chelsea, la grande équipe de Londres, avec ses stars, hein, les champions du monde, N'Golo Kanté, Olivier Giroud, et puis Hakim Ziyech, Thiago Silva ou Kurt Zouma. Bref, l'équipe troisième de Premier League jouera sur la pelouse du Roazhon Park, toujours malheureusement désespérément vide. Pandémie oblige. Éric Mamrut est notre envoyé spécial à Rennes, mais il doit être un peu seul dans les rues de Rennes. Bonjour Éric.
Oui, bonjour Annie, bonjour tout le monde. Bah, vous avez vu ce nouveau confinement, hein, on peut sortir, il y a des ventes dans les rues, donc non, ça va.
Ça va à peu près. L'étude. Bon, il n'y a pas de crêpes en vente dans les restaurants, mais si
encore.
Tout va bien.
Moins.
C'est vrai que, en fait, si je vous dis ça, c'est effectivement parce que la dernière fois que le premier match de cette équipe de Rennes dans son stade de Ligue des Champions,
il y avait du
public, hein, et on les entendait en plus, même de loin, ouais. À travers vers les écrans de télé. Alors les Blues en tête du groupe E pourraient bien se qualifier dès ce soir et ce serait donc aux dépens de Rennes pour sa première aventure en Ligue des Champions. Le Stade Rennais a du mal, un seul point et donc zéro victoire. Une victoire ferait du bien à cette équipe pour sortir d'une mauvaise passe, non seulement en Ligue des Champions où l'équipe donc n'a pas beaucoup de points, mais surtout en Ligue 1 où elle a glissé à la 7e place après un bon début. Une victoire ou au moins jouer avec la manière, retrouver son jeu. L'entraîneur des Rennais espère un déclic. Julien Stéphan, résolument optimiste, et à votre micro Éric Mamrut.
On est déçus, bien évidemment qu'on est déçus des résultats. On a eu des résultats par le jeu, il faut qu'on retrouve ça. Et le jeu, on va le retrouver par de la confiance, par du dynamisme, par la volonté de se montrer, de prendre ses responsabilités. Voilà, on reste soudés ensemble, avec une volonté féroce et de tous les instants de chercher la solution, et on va la trouver avec les joueurs, ça c'est une certitude. On viendra chercher un contenu bien meilleur que celui qu'on a eu contre Bordeaux, avec une unité collective d'une autre facture.
Alors voilà, un groupe secouait l'équipe, hein, qui ne gagne plus depuis le 31 octobre en Ligue 1. Seule victoire donc sur 9 derniers matchs. Éric Mamrut, c'est ce qu'attend le responsable de cette équipe et de ses joueurs, c'est au moins retrouver la manière, si ce n'est la victoire.
Effectivement, bah là, il faudra peut-être les deux, hein, la manière et un bon résultat, évidemment, pour casser cette spirale tellement négative. Vous l'avez dit, une victoire sur les 9 dernières rencontres. Là, il reste sur 3 défaites d'affilée, 3-0 face au PSG, 3-0 face à Chelsea, la défaite à domicile contre Bordeaux. Bizarre après ce début de saison canon, 4 victoires d'affilée. Alors est-ce que ce sont les blessures de Nzonzi, de Kamavinga qui ont un petit peu cassé tout ça? En tout cas, effectivement, il faut essayer de relancer. Alors ce qui est quand même assez intéressant, c'est le discours de Julien Stéphan qui lui, disons, apparemment n'a pas poussé une gueulante auprès de ses joueurs. Au contraire, il insiste bien, il faut les rassurer, les conforter, les accompagner, les soutenir, les parler et essayer de retrouver la confiance par ce biais-là, par le jeu, en étant collectif. Il insiste vraiment là-dessus et tout en disant faut pas paniquer. Donc il essaye vraiment de protéger son groupe, de le cajoler entre guillemets, et puis aussi de se rappeler qu'au match aller à Stamford Bridge à Chelsea, alors certes ils avaient perdu 3-0 avec des circonstances assez particulières, oui, avec un arbitrage très spécial, hein. Mm-hmm. Mais la manière plutôt avait été là. Enfin, on avait plutôt, les supporters, les observateurs avaient plutôt apprécié le jeu breton ce soir-là. Donc, ça peut servir de point de repère. Mais là, ce soir, effectivement, il faut passer la vitesse supérieure, retrouver le jeu de début de saison. Évidemment, face à Chelsea, ça va pas être évident. Mais après, Julien Stéphan, il dit, c'est Chelsea. Si on perd ce soir contre Chelsea, faut pas. On ne va pas non plus hurler. A priori, ça paraîtra normal.
Mmh, oui. Philippe Doucet, c'est la bonne méthode finalement pour une équipe qui, certes, joue sa première compétition, mais est aussi un peu, non seulement petit poussé du point de vue de la taille du club, mais de l'expérience en tout, c'est peut-être apprendre.
Oui, clairement, Rennes découvre. Moi, j'ai longuement parlé avec Julien Stéphan. J'ai eu la chance de passer un long moment avec lui après Rennes-Bordeaux, juste après Rennes-Bordeaux, donc en pleine déception, c'est vrai. Mm-hmm. Mais il avait déjà ce discours très clair en disant, nous, c'est simple, il faut que tout le monde ici se rende compte qu'on n'est pas un club de Ligue des Champions. On participe à la Ligue des Champions, mais on n'est pas un club de Ligue des Champions, on n'a pas une équipe de Ligue des Champions, et si on est un peu en dessous collectivement, ce qui est le cas dans tous les derniers matchs, et notamment celui de Bordeaux, qui est peut-être le plus mauvais match que Rennes ait fait cette saison, de l'aveu même de Julien Stéphan, il disait, c'est clair que si on n'a pas le collectif, c'est no way, on est une équipe moyenne, ordinaire. Donc il est très cash, et je pense que son discours, il est très simple, c'est retrouver des valeurs collectives, l'état d'esprit, parce qu'il est persuadé les joueurs que il y a pas de joueur miracle dans cette équipe. Ça se saurait si l'un des meilleurs joueurs du monde était à Rennes et pouvait faire la décision comme ça se saurait. Donc s'il y a pas de collectif, c'est fini.
Malgré tout, Eric Rabessandratana et Éric Mamrut le disaient de Rennes, il y a eu des absences quand même de joueurs. Alors effectivement, c'est pas des stars internationales, mais quand même des joueurs importants pour cet effectif que sont Kamavinga et Nzonzi, qui ont ou l'un l'expérience ou l'autre un talent.
Ouais, et puis c'est deux joueurs internationaux, donc c'est quand même des joueurs importants pour une équipe comme Rennes. Donc moi j'aime bien le discours de Stéphan qui se veut plutôt rassurant et plutôt calme, plutôt que de s'énerver après les joueurs ou après les résultats. Il est plutôt positif, à essayer de retrouver un peu de confiance, et confiance surtout collective. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas toujours le discours qu'on voit pour un entraîneur qui peut pester un peu après son équipe. Donc ça, c'est bien. La réalité aussi du fait que il est lucide, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous regardez le niveau de Rennes, c'est pas une équipe de Ligue des Champions, mais il n'empêche qu'ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Ça veut dire que voilà, le début de saison a confirmé un peu le l'euphorie. Maintenant, on est un peu redescendu et on est retourné un petit peu dans la réalité rennaise pour l'instant. Mais voilà, ils ont quand même des meilleures qualités que ce qu'ils ont montré sur les derniers matchs.
Eric Mamrut, une petite question avant de vous libérer, parce que vous devez aller vers le stade. Hein, le match est à 10, enfin est dans 1h30, on va dire. Qui marquera un but à Edouard Mendy peut-être ce soir? Edouard Mendy, l'ancien joueur de cette équipe, qui est parti du côté de Chelsea et qui, là, n'a encaissé aucun but en Ligue des Champions.
Il a pas encaissé un but sur les 7 derniers matchs, donc effectivement, il a de bonnes statistiques. On peut dire le gardien titulaire de l'équipe du Sénégal, hein, il a participé aux deux derniers matchs qualificatifs pour la prochaine CAN. Et effectivement, Franck Lampard, l'OS Émérite d'ailleurs, il y a en conférence de presse, lui, Thiago Silva, qui vient d'arriver également, Franck Lampard, en dit beaucoup de bien. Et évidemment, il y a le duel, le match dans le match, hein, entre les deux gardiens sénégalais. Alfred Gomis, lui, a connu un bon début de saison avec Rennes. On l'a vu très brillant à Séville, avant d'être un peu plus irrégulier, de commettre quelques, bon, pas boulettes, on va dire, mais bon, pas loin, petites erreurs. Et après, c'est à l'image de l'ensemble de l'équipe qui ne fonctionne pas aussi bien en ce moment. Mais forcément, on va suivre ce duel à distance. Enfin, à distance, ils seront séparés par une petite centaine de mètres. Mais ça va être intéressant pour nos RFI.
Merci beaucoup, Eric Mamrut. On vous retrouvera donc ce soir, hein, dans la soirée spéciale sur RFI, avec nos autres confrères, avec Hugo Moissonnier, Martin Guèze. Et on vous retrouvera donc à l'issue du match, puisque ça sera au moment où il se terminera. Merci beaucoup, Eric. À tout à l'heure.
Merci, avec plaisir.
À tout à l'heure. Nabil Djellit, cette équipe de Rennes, est-ce que ce soir, ça serait le bon moment aussi de donner un coup de pied, de remonter un peu à la surface, parce que on les voyait, ils prétendent au moins, alors certes, c'est pas une grande équipe encore de Ligue des Champions, mais ils prétendent jouer l'Europe tous les ans.
Oui, bah ça peut être l'occasion d'un exploit à l'échelle du football breton et de Rennes, pourquoi pas.
Alors ils en étaient passés, entre guillemets, très près, mais c'était pas Chelsea en face, c'était l'équipe de Krasnodar au premier match.
Oui, Krasnodar, ils peuvent se regarder.
Ils avaient failli l'emporter et ça leur aurait sûrement porté.
Oui, après
choses,
ils ont quand même certaines certitudes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, mais le match aller face à Chelsea, l'arbitrage avait quand même été très en faveur des Londoniens. D'ailleurs, même Lampard l'avait reconnu, et je trouve que sur le match, le contenu,
ils avaient quand même proposé
des choses, ils ont des arguments, il faut peut-être retrouver un élan, peut-être est-ce physique, on n'en parle pas beaucoup. Moi j'ai l'impression que cette équipe, c'est pas une question de qualité technique ou de qualité de joueur, parce que je trouve qu'il y a quand même de quoi faire globalement, mais peut-être que c'est une équipe qui physiquement aujourd'hui rame un peu. C'est vrai que c'est un peu illisible l'état de forme de certaines équipes, les états de forme aussi des individualités sont disparates, elle est dans une mini crise de croissance. Mais ce soir, elle n'a rien à perdre. Elle a justement tout à gagner. Et c'est ça, un peu, peut-être, la chance de cette équipe rennaise.
Eric?
C'est surtout le moment de réagir, en fait. Vous êtes sur 9 matchs en difficulté. Donc là, il n'y a rien à perdre. Et puis, il y a une équipe en face qui pourrait vous redonner, un élan derrière. C'est-à-dire de faire un exploit contre cette équipe de Chelsea. Ça peut vous relancer dans votre saison et vous dire que vous avez repris un peu du poil de la bête.
C'est pas injouable, ce soir.
Non, en plus, c'est pas injouable.
Ça sera difficile, mais c'est pas injouable, c'est loin d'être injouable. Si c'est Rennes-Bayern, oui, je vous dis, il n'y a aucune chance. Enfin, il n'y a jamais aucune chance dans le football. Mais cette équipe de Chelsea, c'est aussi, il ne faut pas oublier, que même si elle est très forte, et c'est peut-être sur la forme du moment, la meilleure équipe d'Angleterre avec Tottenham, ça reste aussi une équipe en construction.
Mmh, bien sûr. Une dernière question à ce sujet, Philippe Doucet, c'est est-ce que pour eux, viser la Ligue Europa, c'est très important, parce que s'ils gagnent ce soir, ils accumuleraient des points, et peut-être seraient-ils troisième de ce groupe qui leur permettrait d'aller dans l'autre compétition.
Oui, on sent dans ce club qu'il y a une visée européenne, c'est-à-dire une envie de s'installer dans les équipes françaises qui se qualifient tous les ans en Coupe d'Europe. Voilà, en ce sens-là, c'est une équipe européenne, qu'on ne se méprenne pas, parce que dans cette époque où tout le monde pense aux trophées, etc., non, c'est pas ça. Évidemment, Rennes ne peut pas gagner une Coupe d'Europe, il n'y a pas de débat là-dessus, pas aujourd'hui en tout cas. Mais devenir un club européen qualifié tous les ans, oui, c'est important, donc oui, se qualifier en Europa League serait important, même si, évidemment, ils auraient rêvé d'autre chose, mais la composition du groupe faisait que, à part un malentendu, une équipe de Séville qui serait pas dans le coup, ou Chelsea, bon, mais il y avait quasi aucune chance. Faut être honnête, il y avait quasi aucune chance de se qualifier dans ce groupe-là. Rennes savait que ce serait très difficile, et ce serait déjà un accomplissement d'être en Europa League, oui.
Alors voilà pour ce qui est de ce match qui donc commence à 18h55 heure de Bretagne, 17h55 en temps universel, et ce sera une soirée spéciale sur RFI à partir de 20h56 ou 57, 19h56 ou 57 en temps universel, et donc avec Hugo Moissonnier, Martin Guez, avec aussi vous, Nabil Djellit, vous faites les prolongations aujourd'hui sur RFI, n'est-ce pas?
On joue. J'espère que je ne serai pas le chat noir du Paris Saint-Germain.
Oh, ce serait dommage.
Le Paris Saint-Germain, vous voulez qu'on en parle? Allez, on en parle.
Les Red Devils viennent faire très mal aux Parisiens. Oh, qu'elle est loin désormais, cette finale de Ligue des Champions. Deux buts face à Istanbul, Başakşehir, et surtout une victoire précieuse pour Paris. Et le penalty pour le RB Leipzig, c'est pas vrai. Aïe, 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 ça se complique pour Paris.
Bien sûr, on veut gagner, on doit gagner, c'est un final pour nous.
Profite de la petite musique, n'est-ce pas? Le PSG rêve toujours de finale, hein, vous l'avez entendu avec Thomas Tuchel. Eh bien, donc, en voilà une ce soir. Enfin, bon, les Parisiens ne gagneront rien ce soir. Il n'y a pas de trophée à la clé, mais en tout cas, ils auront encore leur destin en main s'ils l'emportent. Car après avoir accumulé les déconvenues, alors ce sont deux défaites pour une victoire en Ligue des Champions, les joueurs de Tuchel n'ont plus le choix s'ils veulent voir la phase éliminatoire et disputer la finale. Non, enfin, en tout cas, au moins un huitième de finale. Je voulais vous plaisanter, Eric. Au moins, ça vous fait sourire.
Oh bah oui.
Alors, heureusement, rappelons les stats à la rescousse. Paris n'a jamais perdu deux fois d'affilée à domicile en Ligue des Champions. C'est intéressant.
Ça faisait longtemps déjà qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Donc
Mais Paris, rappelons-le quand même, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler hier, sort d'un mauvais match de championnat de France, de Ligue 1. Mauvais match à Monaco. Ils menaient 2-0 à la mi-temps et ils perdent 3-2, c'est digéré ce genre de choses psychologiquement.
Je sais pas si c'est digéré, mais en tout cas, ce match de Monaco avait quand même une certaine ressemblance avec ce match de Leipzig. Donc déjà, ça vous mettait un peu avec une bonne première partie de match, et puis après
une
équipe qui sombre complètement en deuxième partie. Paris s'est vu gagner le match tranquillement. Faut avouer franchement que par rapport à la prestation de Monaco, moi aussi je voyais le match tranquille et finir tranquille, sauf que c'était sans compter sur les changements derrière et qui ont laissé et les joueurs et Tuchel sans réaction, et du coup ça a donné cette deuxième mi-temps complètement ratée et qui nous met un petit peu, alors j'ai dit dans le doute mais pas trop quand même, parce que la Ligue des Champions ça reste une compétition complètement différente. On sait que les Parisiens seront, j'espère, un peu plus motivés que ce qu'ils ont montré en deuxième mi-temps contre Monaco, mais n'empêche que ça montre certaines faiblesses et une certaine fatigue aussi des joueurs, parce que la deuxième mi-temps, je les ai sentis quand même très fatigués.
Le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait, on peut pas se fier même aux statistiques, même au favoritisme, Nabil. C'est-à-dire que la dernière fois, on pensait quand même à domicile face à Manchester, et au moins ils arriveraient à s'en sortir, ce qui n'a pas été le cas d'entrée. Est-ce qu'on peut être mal surpris ce soir? Ou surpris de nouveau.
De nouveau surpris par Leipzig. Bah déjà, il y a un adversaire. Bah,
surtout pour une contre-performance, je pensais au PSG.
Ouais, mais ce soir, ça reste globalement quand même ouvert. Moi, je trouve, il y a un adversaire de qualité qui a pris de l'expérience, même par rapport à la dernière demi-finale du Final 8. C'est une équipe qu'on a vue à l'aller, qui est à la fois prenable mais qui est à la fois joueuse et capable de créer des déséquilibres et mettre du danger. Le Paris Saint-Germain ne brille pas forcément par son expression défensive et par les efforts et la rigueur et par un bloc dense. On sait tous que le Paris Saint-Germain peut aussi allègrement et facilement gagner ce match-là parce que elle a un ou deux extraterrestres, voire trois. On les connaît, c'est Neymar, Mbappé et Di Maria qui sait choisir ses matchs quand il faut. Autant face à Monaco, je crois que ça l'intéressait pas trop. Autant quand il s'énerve, il peut gagner le match. Mais ce soir, le Paris Saint-Germain à Nice peut aussi effectivement.
Il doit gagner,
il doit absolument gagner. Non, mais ils doivent absolument gagner. De toute façon, ce soir, clairement, s'ils gagnent pas, Tourelle, il peut faire ses bagages. Non, mais je veux dire, ce soir, c'est pas que l'enjeu de la qualification.
J'imagine bien.
On dit que ça coûte trop cher, donc il finira une saison éliminée.
Avec la perte qu'il y a derrière en
Non, mais
en
ça serait trop
financier.
Tard de changer Tourelle, non, ce soir.
Moi, je pense que ce serait trop tard. Je pense qu'il fallait changer à la trêve internationale. Parce que, voilà, il y avait un peu de temps pour.
Non, mais
moi, je pense que c'était le bon moment.
Il y a plus de chances de se qualifier, qu'on le change ou non.
Oui, mais après.
Est-ce qu'il passera l'hiver, déjà?
Non, mais après, ça dépend quel est le projet. Bon, de toute façon, Paris Saint-Germain n'est pas encore éliminé, mais. Admettons que ça arrive. Bon, on leur souhaite pas. C'est soit vous finissez en roue libre avec lui tranquillement et puis vous nommez quelqu'un d'autre et vous passez sur un nouveau cycle dès l'été prochain et vous payez pas les indemnités. Soit vous avez déjà dans votre poche et vous savez tous à qui on pense parce qu'il y a 2-3 noms quand même qui circulent. Et dès janvier, vous les nommez.
Ça fait longtemps qu'ils circulent d'ailleurs.
Voilà. Et dès janvier, vous les nommez. Vous envoyez aussi un signal aux cadres qui doivent prolonger. Bon, bah ça peut être Pochettino, oui. Allegri, Thiago Motta.
Vous préparez déjà la saison d'après. Donc.
Et puis vous dites, il y a pas de pression. Tu me gagnes le championnat, puis tu me prépares l'équipe pour la saison d'après. Ce qu'a fait le Real avec Zidane, qui était arrivé comme ça en cours de route avec le Real.
Philippe Doucet, ce Paris Saint-Germain, vous êtes prêt à tout ce soir?
Bon, pour rassurer les Parisiens, quand ils ont été dans ce genre de situation,
oui.
En général, ils ont fait le match.
Mm-hmm.
Ça a été le cas de Liverpool il y a 2 ans, ça a été le cas
de Naples
aussi, au retour à l'extérieur à Naples, absolument. Contre Dortmund l'année dernière, il y avait un peu ce côté-là, ce raté du match aller qui avait été bien raté. Ils avaient perdu que d'un but, ce qui était plutôt une chance.
Oui, c'était plutôt la prestation que
oui.
le résultat. Enfin,
oui, le résultat n'était pas dramatique, mais la prestation n'était quand même pas terrible. Donc on avait l'impression que tout se jouait. Bon, ils avaient été au rendez-vous, donc on va une fois de plus croire qu'ils vont être au rendez-vous. Mais il est vrai quand même que la nouveauté de cette année,
Eric,
quand même.
Eric boit vos paroles.
La nouveauté.
Dans un état, au moins lui. Moi,
c'est affreux d'être supporter.
C'est un vrai. Non, mais moi, c'est un vrai.
Je souhaite à personne quand je vois
Eric. Non, mais c'est un vrai.
Il est plus supporter, il est surtout ancien joueur. Non, c'est ça qui.
Quelle malchance d'être supporter, c'est affreux.
Non, mais moi,
je suis un vrai supporter.
Oui, mais par la force des choses.
C'est vrai, moi, je vis les trucs à fond. C'est-à-dire que là, pendant le match. Là, le match de Manchester, par exemple, la catastrophe.
Le premier.
T'as pas dormi après.
Ah, celui
de derrière. Pendant le match, c'est même pas ça, c'est que la deuxième mi-temps.
T'as pas dormi
pendant le match? Je voyais le truc arriver et au fur et à mesure.
Non, on le voyait tout ça arriver d'ailleurs.
Au fur et à mesure, j'étais en train de commenter le match et je faisais plus de commentaires. C'est-à-dire que je voyais le truc arriver. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi, ils vont pas le faire encore. Et en fait, si. Donc, c'est pour ça que, bon, on reste quand même mesuré. On est quand même traumatisé en tant que supporter parisien.
Pour dire un supporter de l'équipe d'Algérie dans les années 90.
J'ai essayé d'être positif et puis le côté négatif quand même, c'est que cette équipe rate beaucoup plus de matchs qu'avant. C'est assez déroutant ce début de saison. Elle rate énormément de matchs. Elle a perdu 5 fois déjà cette saison le PSG.
C'est beaucoup.
Alors au tout début, ils avaient pas mal d'absents. Ok, là aussi, il y a des absents, mais
ouais, c'est beaucoup.
Mais
c'est
malgré
vrai.
Tout, ça dénote quand même.
Je suis pas sûr que la fatigue et les blessés. Sincèrement, en termes de niveau, je pense que ce PSG là est moins fort que celui de la saison dernière.
Et pourtant, il y a pas de raison.
Vous avez perdu quand même Thiago Silva et Cavani.
Non, mais
c'est
Thiago
quand même
Silva,
deux grosses pointures. Pour
Thiago
moi.
Silva, c'est une erreur, mais on en revient.
Ça c'est sûr.
Ça tient quand même.
Il joue à Rennes.
Ça tient.
Ce soir.
Non, mais ça tient quand même sur des phénomènes, Annie. Non, mais de toute façon, on va se dire la vérité. Cinéma, il décide de gagner le match.
Bien sûr,
il va le gagner.
Voilà.
Alors on va en parler, mais juste une statistique intéressante. Elle vous aura pas échappé, Eric, dans le quotidien L'Équipe aujourd'hui, mais qui est en fait de cette agence Opta, qui signale en fait toutes les influences de manque de forme des joueurs qui ont disputé le tournoi final de Lisbonne. Et c'est très intéressant parce que nombre de joueurs blessés par club de ceux qui ont disputé donc des 8. Le PSG est en tête avec 18 joueurs blessés devant le Bayern 16 qui va mieux malgré tout et qui a gagné en plus la coupe.
C'est en cumulé depuis le début de saison.
Et
ils n'ont pas 18 blessés aujourd'hui. En tout, si on additionne tout, il y a 18 blessés.
Exactement. C'est ça, Philippe. mais surtout, un total de matchs manqués en club par les joueurs blessés. Et là, c'est pareil, le Paris Saint-Germain, 70 matchs et seulement 59 pour le deuxième qui est Manchester City. Donc c'est vrai que c'est un handicap aussi, peut-être, pour une équipe de se trouver, d'avoir des automatismes, retrouver son jeu.
Je suis pas sûr que ce soit un problème dans ce sens-là. Je pense que c'est surtout que c'est des joueurs importants qui sont absents. Et ces joueurs importants qui font la différence habituellement. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a un manque de collectif en fait. C'est-à-dire qu'il y a un manque de jeu collectif qui ne peut pas pallier à l'absence des joueurs importants. Et ce qui fait que derrière, on se retrouve dans les moments importants où on n'a plus les joueurs
qui sont là pour faire la différence, eh ben on se dit bah mince, qu'est-ce qu'on va faire? Mais
et
c'est trop tard.
Vous pensez à qui?
Bah, quand par exemple le match aller par exemple contre Leipzig où vous avez pas Neymar, vous avez pas Mbappé,
c'est ça.
Vous avez pas Di Maria, vous avez pas Verratti, vous avez tellement fois vous avez pas eu Verratti où c'est quand même autre chose quand Verratti est là.
Malheureusement ces dernières
bien
années
sûr.
C'est souvent hein,
il
c'est
il
pas
a,
seulement
il,
depuis
je,
le tournoi final.
Vous rendez compte que je crois je sais plus sur à quel endroit mais il a raté 121 matchs depuis qu'il est là. Il est au PSG, c'est quand même énorme.
Ouais, il est mieux le vendre 70
millions. 121 matchs, c'est quand même énorme de rater ça à cause de blessures. C'est un truc incroyable quand même.
Mais on a remarqué.
Mais par contre, quand il joue, voilà, c'est sûr. Donc
c'est le moteur.
C'est un paramètre que vous devez rentrer. C'est-à-dire que le mec, il sera pas là tout le temps, mais quand il joue, il est capable de. Donc c'est pour ça qu'il faut pallier à quelqu'un derrière.
Et vous le savez.
Il faut le savoir.
Il se cache pas, Verratti.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est incroyable le nombre de personnes qui aujourd'hui considèrent que Verratti n'est pas indispensable au Paris Saint-Germain. Moi, je pense comme toi,
bien sûr,
Eric. C'est-à-dire que quand il est là, déjà, Neymar, il descend moins chercher le ballon parce que finalement, le meneur de jeu reculé. C'est Verratti, puis c'est un joueur de caractère qui se cache pas, mais c'est vrai que on peut se poser des questions. Alors je sais pas si on peut se poser des questions sur son professionnalisme,
sur sa fragilité.
Ouais. C'est ça, il doit y avoir aussi une fragilité parce qu'il y a pas que ça. Il y a plein de joueurs qui sortaient, qui fumaient, qui buvaient. Non mais il y en a plein, ça. On a connu ça depuis toujours. C'est pour ça que ça me fait rire quand on dit, mais non mais ça existait tout le temps.
Peut-être que lui, ça
maintenant, lui doit avoir une certaine fragilité.
Ouais, il a plus d'incidents chez lui, quoi.
Ouais, peut-être.
Bon, en tout cas, vous parliez des deux absents si importants que sont évidemment Mbappé et Neymar qui seront là dans l'attaque, puisque le mot d'ordre de Thomas Tuchel, si j'ai bien compris, c'est à l'abordage, quoi, hein, tous à l'attaque. On va voir ça. En tout cas, écoutons Thomas Tuchel au micro de Frédéric Suteau évoquer ce tandem que forment Neymar et Mbappé.
Sûr, nous sommes affectés si Neymar ne marque pas, si Kylian ne marque pas. Ça c'est un grand impact de nous, de résultats, c'est clair. Ils sont des gardes décisifs et j'espère qu'ils peuvent marquer. On a besoin des buts, on a besoin des buts de Kylian, on a besoin d'une grande performance de lui. Et j'ai le sentiment qu'il est là, il a fait tout pour être prêt. Et voilà, maintenant c'est pour lui avec un aide d'être décisif encore.
Alors il compte évidemment sur eux, Thomas Tuchel, mais rappelons que Kylian ne marque plus depuis décembre 2019 en Ligue des Champions. Alors bon, il peut aider à marquer, on sait bien le rôle qu'il peut avoir, hein, mais dans les faits. Alors on sait qu'il aimerait bien marquer son 100e but sous le maillot du PSG, ça le motivera peut-être un peu plus. Et puis Neymar, lui, eh bien ça fait 5 matchs de Ligue des Champions non plus qu'il ne marque pas. C'est le jour J.
Bon, alors, bah oui, s'il y a bien un jour où il faut marquer, c'est aujourd'hui. Alors, bien, attention, parce qu'ils marquent pas, mais ils sont quand même décisifs. C'est-à-dire que Neymar, dans
le Final 8. Non, là, je parlais dans l'absolu.
Lui,
hein.
C'est pour ça que j'allais dire.
Non, ce ne sont pas que des buteurs, on est d'accord.
C'est pas très grave. Derrière, s'ils sont décisifs, c'est pas très grave. J'allais dire, il y a toujours Di Maria qui est capable de. Voilà, mais bon, ils sont les joueurs importants. On se rappelle qu'à Leipzig, ils n'étaient pas là et que, bon, sur une grosse demi-heure, on va dire 40 minutes, le PSG a quand même posé énormément de problèmes à cette équipe de Leipzig. Donc, j'imagine qu'avec les deux, ça devrait être un petit peu mieux.
De Lisbonne, voilà. Hein, quand ils les ont battus.
Et puis s'il y a un pénalty, au moins, Neymar devrait pouvoir le marquer. Donc. J'espère que ça se passera bien.
Il n'y a pas de match en pénalty, vous savez.
Cet arbitre-là, apparemment, est un coutumier des pénaltys.
De toute façon, il n'arrête pas d'augmenter le nombre de ses pénaltys.
C'est deux pénaltys par match, maintenant, dans le football d'aujourd'hui. Donc c'est
vous devez adorer ça.
Sans vérification de la VAR.
Non, mais tout le monde est content, parce que ça fait des 4-3. Bon, alors, évidemment, ces débuts, il y en a 4 qui auraient été refusés.
C'est ça. Heureusement qu'il y a la vidéo.
Philippe, alors ils ne sont pas évidemment que tous les deux, Mbappé et Neymar, on aura aussi Di Maria et on a Moïse Kean aussi qui est des atouts, voilà.
Moïse Kean.
Alors oui.
Ah bon, Kean,
c'est bien. Bah, son père, Abidjan, c'est Kean.
Ouais, mais lui demande. Alors,
ah oui, bien sûr.
Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait lui, alors c'est vrai, Philippe a raison. Mais,
on a le débat sur le roi Sané ou Leroy Sané.
Il y a le ressenti du joueur. Il y a le ressenti du joueur puisqu'on lui a demandé comment il préférait être appelé. Et lui préfère être appelé Kean, même si on pourrait, par filiation paternelle, prononcer Kean. Mais le joueur, lui, souhaite que ça soit Kean.
Tout à fait. Ça fait international.
Donc c'est pour ça que
ça fait plus. Ça fait anglais. Il vaut plus cher. Si c'est Kean, il vaut plus cher.
C'est
Kean
mieux avec
les
filles,
des millions.
Peut-être, non.
Ça veut dire qu'aux États-Unis, ça, Kean, ça passe mieux.
Ouais. C'est mieux avec les filles, peut-être.
En boîte aussi, ça doit être.
Si je dis Jalight, peut-être que j'aurai plus de succès, non.
Ouais. Jalight.
Jay Light.
Alors Philippe.
D'où ça?
D'où ça en anglais. Philippe, cette attaque quand même, on l'évoque avec Eric face à la défense de Leipzig qui est peut-être quand même son point faible, ou qui l'a été, ou qui est en train de le devenir. Enfin, je sais pas comment dire, mais il faut peut-être en profiter. Oui, parce que Upamecano, bah oui. Upamecano, c'est un moins peu moins bon en ce moment.
Oui, non, ils ont donné des signes de fragilité, mais déjà avant le match aller, et puis malheureusement le PSG n'en a pas profité, donc c'est aussi le problème. Mais c'est quand même une vraie bonne équipe, ça joue vraiment bien.
Est-ce qu'elle
football.
Est capable de jouer à contre nature?
Elle ne sait pas jouer contre nature.
C'est ça la question.
C'est pas trop son style. Elle jouera ouvert au parc. Elle peut très très bien prendre 4-1 au parc sans aucun problème.
C'est la mentalité allemande.
Mais tout dépend de la qualité.
Ils sont pris 5-0 à Manchester.
Ouais. Tout à fait.
Oui, mais jusqu'à la 80e, c'était 1-0, c'était très serré, ils avaient eu beaucoup de situations. C'était un score en trompe-l'œil quand même, mais ils ont pris les 5 buts. Hein,
non, mais si ça se passe, c'est un match qui dépend du PSG. C'est un match qui dépend du PSG. Un bon PSG s'imposera contre Leipzig. Mais est-on sûr d'avoir un bon PSG? De semaine en semaine, on est moins sûr.
Il y a des vraies interrogations. Paris Saint-Germain, Kimpembe n'est pas là. Les latéraux, franchement, sont pas dans une forme exceptionnelle.
Diallo, la deuxième victoire à Monaco, elle est quand même pas géniale.
Et puis au milieu de terrain, faudra voir l'intensité qu'ils mettent, parce que les autres, ils jouent bien au ballon.
Alors, il y a une chose intéressante, c'est que Marquinhos est un défenseur central ce soir. Je ne sais pas, en définition, avec le Brésil, il joue aussi en défense centrale. Mais écoutons-le, Marquinhos de retour est prêt à mettre le feu, enfin, on espère. Écoutez.
C'est sûr qu'on a la flemme d'aller le plus loin possible.
Oui, on s'en amuse. Hein, c'est l'oreille attentive de Frédéric Suto qui nous a sorti cette petite pépite.
Un problème de voyelle.
Un problème d'accent, malheureusement. Et on sait que le français, mais je crois qu'en portugais, on peut aussi faire ce genre d'erreur. En tout cas, il a parlé de flemme au lieu de flamme, mais c'est très amusant, n'est-ce pas? Nabil Djellit, avoir la flemme, non, de la part de Marquinhos.
Non, super joueur.
Est-ce que, on l'enlève du milieu de terrain, on le remet là? Est-ce qu'il aura perdu ses repères?
Non, parce qu'entre temps, il va quand même rejoindre
C'est une provocation, Philippe, vous inquiétez pas.
Il va rejoindre la sélection du Brésil où il forme un axe central extrêmement intéressant. D'ailleurs, ça pourrait être une idée pour le Paris Saint-Germain.
Thiago Silva.
Ah, tiens. Ouais. En plus, j'ai trouvé qu'ils avaient des automatismes.
J'ai l'impression que il y a une vraie complémentarité. je sais pas. Enfin, moi, j'ai toujours pas. Alors, c'est vrai que Kimpembe met de l'agressivité et tout ça. Mais à titre personnel, mais après, c'est juste peut-être toi, Eric, t'as joué à ce poste-là, peut-être tu as des ressentis. Moi, pour moi, la meilleure défense centrale de l'histoire du PSG, ça aurait toujours été Thiago Silva avec Marquinhos, une évidence. Aujourd'hui, évidemment, c'est Marquinhos et Kimpembe.
Qui a repris le flambeau
et qui, en plus, parfois, il a des sautes de concentration. Mais Marquinhos, c'est le leader de cette équipe, c'est le leader défensif.
C'est le capitaine.
C'est lui qui, c'est vrai que il a fait un choix, comment il s'appelle, Tuchel, on verra si ça se... Si ça se prolonge dans le temps, mais il préfère le mettre au milieu de terrain parce que ils voient en lui.
Il n'y a pas Danilo a priori donc.
Danilo, il l'a tué entre guillemets, parce que en termes de confiance, il en a pris un coup dans la tête.
Bien sûr, évidemment.
Que Danilo, il joue après en plus au milieu de terrain avec sa sélection.
Non, mais en plus lui, il était fatigué. Ça s'est senti déjà contre la France. Au départ, il était fatigué. Il est arrivé à Paris et il a commencé à le mettre défenseur central. Donc le mec, il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et en fait, ouais, il l'a tué.
Mais toi, Eric, par exemple, défensivement, Thiago Silva, tu l'aurais lâché ou pas?
Mais jamais de la vie, j'ai jamais compris. Un mec qui veut rester dans le club. Alors, bien sûr que c'est cher et
c'est cher.
Le mec est en encadrement, même en le laissant et en le mettant moins sur le terrain, il était important pour les joueurs autour.
Et les matchs à Monaco, vous le perdez pas avec lui?
C'était sûr, mais bien sûr.
Les matchs comme ça, vous les perdiez pas avec lui? Il y avait rarement des sorties de route.
Ouais. Non, c'est hallucinant. Moi, je comprends le renouvellement parce que,
le
problème, c'est que tu n'avais aucune sécurité derrière. C'est-à-dire que Kerrer, c'est pas la sécurité. Diallo, c'est pas la sécurité.
Kerrer, il est en perdition.
Est-ce que Marquinhos Diallo, ça va être la sécurité ce soir?
Non. Après, Diallo est meilleur quand il y a quelqu'un qui est bon à côté de lui. Donc, Kimpembe était pas super à Monaco parce qu'il était fatigué. Ouais. Je vais pas remettre tout ce qu'il a fait depuis.
Ouais,
l'équipe
de France et tout.
Il était bon dernièrement, mais il était fatigué à Monaco et ça s'est senti énormément. Donc,
Dépend si les autres défendent ou pas parce qu'en
fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, il y a eu un naufrage complet. Au milieu de terrain à Monaco, il y a eu un naufrage complet. Donc, c'est pour ça qu'aussi que.
Après, ça tombe sur les gars qu'on voit en 1-1.
Philippe, et cette équipe du RB Leipzig, elle est quatrième actuellement de Bundesliga. Bon, elle a perdu ce week-end, enfin, elle a fait match nul ce week-end face à Francfort. Alors, eux aussi jouent sur deux tableaux. Tout le monde, en ce moment, eux aussi étaient dans le Final Four, hein, dans ce, enfin, Eight, pardon.
Ouais, mais ils étaient dans le Final Four, vous avez raison. Aussi, ils étaient en demi-finale.
C'était la suite. Mais ils ont fait le Final Two.
Ouais, ouais. Après, il y a eu le Final Two.
Ils sont restés seuls tout à la fin.
Mais après, il y a eu le Final One. C'est qu'il y avait que le Bayern.
Ils sont restés à tout et pas à
ouais. Champions d'Europe, les amis. Est-ce que eux aussi, ils ont très envie de se relever du 5-0 et les hommes de Nagelsmann, je pense que Nagelsmann, il a dû les...
Bah, ils se sont relevés. Ils se sont déjà relevés puisque la semaine d'après, ils battaient le Paris Saint-Germain. Et puis, bon, je l'ai vu en partie, le Manchester United de Leipzig. Ils ont très bien compris le règlement de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que finalement, une fois qu'ils ont pris le deuxième but, ça a été terminé. C'est-à-dire qu'ils sont partis à l'abordage en se disant bon, bah, si on marque, c'est sympa, et si on prend des buts, ça n'a plus d'importance parce qu'en différence particulière, déjà à 2-0 contre United, ils étaient très mal placés. Mm-hmm. Donc ils ont, faut pas prendre pour argent comptant ce résultat-là, mais ils dénotent leur mentalité. C'est-à-dire qu'ils essayent de jouer. Je pense que ce soir, ils vont essayer de jouer. Ils peuvent très très bien à 0-0 se faire prendre en compte par le PSG. Hein. Ils sont tout à fait capables. Ouais. C'est dans leur façon de s'exprimer.
C'est allemand, c'est vrai.
Ils vont jouer de manière assez usuel et ça peut leur jouer des tours, mais ça peut aussi troubler le PSG s'ils prennent en main le milieu de terrain. Il va falloir qu'ils bossent quand même un minimum pour avoir la balle.
Il faut bloquer Sabitzer, c'est leur Thiago Motta, leur 6-8-10, c'est le joueur qu'il faut absolument cadenasser.
Le truc du PSG, c'est que comme ils jouent avec 4 attaquants, il y a que 2 joueurs au milieu forcément, et il faut être suffisamment actif au niveau des attaquants et autres pour que au milieu ils laissent pas le ballon à l'adversaire, parce qu'au bout d'un moment l'équipe s'éteint quand elle a jamais le ballon, c'est pas possible.
On verra ça donc ce soir, soirée spéciale avec Frédéric Suto, qui est l'envoyé spécial de RFI à quelques encablures au Parc des Princes.
Déplacement à pied.
Oui. Ou peut-être en courant avec Frédéric Suto, tout est possible avec lui. Et direction, eh bien, l'Espagne, puisque le Barça joue aussi ce soir.
Libre y es para el Barça, quedó algo sentido Dembélé, Ale Piqué regala el balón y Correa se la tira, Yannick Ferreira y va, y atención que si lo hace bien puede estar primero a cualquier lado, el arquero le pegó, Yannick, gol, gol.
Ça faisait 10 ans que l'Atlético de Madrid n'avait plus battu Barcelone en Liga. Voilà qui est fait maintenant pour l'équipe de Diego Simeone, un succès 1-0 grâce à un but marqué par Yannick Carrasco.
Carrasco en portugais, ça veut dire le bourreau. Alors, il porte bien son nom, le pauvre Carrasco, le belge, durant ce match. Où se trouve donc le Barça dans le classement de la Liga? Il faut chercher pour trouver les Blaugrana et s'arrêter à la 13e place. Deuxième moitié de tableau, rappelons-le, l'équipe a 2 matchs en retard, mais c'est le cas de beaucoup d'équipes classées en Liga en ce moment. Elles ont 1 à 2 matchs de retard. Le Barça a surtout donc disputé un match bien triste, bien terne à Madrid. Alors, seule parenthèse souriante, et on y viendra, c'est la Ligue des Champions. Ce soir, ils joueront à Kiev. Mais en Espagne, aujourd'hui, celui qui fait la une de certains journaux, c'est lui. Oui, c'est Antoine Griezmann, le petit Français des Blaugrana, au cœur de toutes les discussions autour de cette équipe. Une équipe à la dérive ou pas, nous allons le voir. François David est avec nous en direct. Bonjour François.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Non, ça fait la une de tous les journaux. Hein.
À tous.
Pas seulement quelques-uns. Tous.
Tous, parce que Antoine Griezmann a parlé hier soir. Enfin, il a pris la parole, mise au point sur la chaîne Movistar. Donc, ça a été diffusé hier soir. En voici un extrait d'Antoine Griezmann.
J'accepte les critiques car on n'a pas vu le meilleur Griezmann, c'est vrai. Et bien sûr, j'ai besoin de l'aide de tout le monde. Parfois, quand on perd, on m'attaque en premier. Je suis une cible facile car je ne parle pas et je ne fais pas parler mon entourage. Mais en 1 an et demi, j'ai eu 3 entraîneurs différents. C'est pas facile. Avec en plus la pandémie de 4 mois sans jouer, c'est encore plus dur. J'ai encore besoin de temps pour m'adapter à mes coéquipiers et que eux s'adaptent à moi.
François David, est-ce que ça a de quoi apaiser un peu le vestiaire, surtout tout ce qui se passe autour de ce FC Barcelone où tout le monde commente jour après jour, c'est même pas match après match, la relation Griezmann-Messi?
Bah déjà, on espère que ça va le libérer lui et l'apaiser lui, parce que moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu hier, c'était un sentiment pour lui de libération. Bah, vous l'avez dit, il n'avait pas parlé depuis sa présentation, hein. C'était il y a plus d'un an, le 14 juillet 2019. Il n'a pas parlé depuis, manière aussi de se justifier un petit peu par rapport à ses mauvaises performances, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est un appel à l'aide par rapport à ça. Alors, un appel à l'aide, on se comprend, hein, mais c'est plus par rapport aux critiques qu'il peut recevoir, critiques qui sont totalement justifiées par rapport à la presse qu'il trouve pas bon, par rapport aux supporters qui considèrent qu'il est pas au niveau d'un joueur qu'ils ont payé 160 millions d'euros, 120 millions d'euros et qui touche 16 millions net à l'année, et surtout son entourage qui a fait des déclarations, vous l'avez dit aussi, contre Messi, et qu'on touche Messi au Barça, on touche à Dieu. Donc il a été d'ailleurs vilipendé par quelques supporters à la sortie de notre entraînement, lui demandant de respecter Messi. On espère que ça va apaiser. Ce soir, il y a quand même une super carte à jouer parce qu'il joue à Kiev sans Messi qui est laissé au repos, et c'est normal, et sans Frankie de Jong. Donc ça va être le leader de l'attaque ce soir avec des jeunes joueurs autour de lui. Ce soir, c'est un match super, super important, surtout après son interview de hier soir.
Oui. Philippe Doucet, Griezmann, alors on en parle sans doute trop, mais bon, ses prestations sont peut-être pas à la hauteur du salaire ou du transfert. Est-ce que cette mise au point peut être assez sincère en disant, c'est vrai, trois entraîneurs en un an et demi, c'est aussi compliqué, en se justifiant un peu, ça peut aider ?
Je sais pas, mais j'ai du mal à imaginer des unes de journaux avec quelqu'un qui n'a rien dit. Il a dit des choses très simples, élémentaires, que n'importe qui devrait savoir.
Il a surtout dit qu'on parlait pour lui, quoi.
Oui, alors ça, par contre, il s'est expliqué sur son fameux entourage, qui n'est pas son entourage. Ça, c'était sans doute nécessaire.
Son oncle et son ancien conseiller qui ne voit pas depuis des années.
Franchement, il y a beaucoup de psychologie à deux balles sous cette affaire Griezmann. J'entends parler depuis un an.
Mais il est ridicule, surtout, on peut le dire, non ?
Lui ?
Je trouve qu'il est
sur
ridicule.
Le terrain ?
Non, pas sur le terrain, il est pas bon, mais le Barça n'est pas bon, il est pas responsable des maux du Barça. Il est quand même champion du monde, c'est le joueur phare, leader avec Mbappé de la meilleure équipe au monde, et il se retrouve
Très bien avec l'équipe de France en plus.
Il se retrouve à se dédouaner, à se justifier d'une relation avec un autre joueur du vestiaire.
Ouais, mais c'est pas un autre joueur.
Non, mais je veux dire dans l'absolu, je veux dire c'est pas un joueur moyen qui arrive, qui doit se positionner par rapport à Messi. C'est un joueur star quand même. Et il devrait, évidemment que Messi est plus grand que lui footballistiquement, mais là on a l'impression que c'est pas d'égal à égal. Je veux dire, il est c'est un joueur bis quoi. Après,
c'est Bryce Wettis alors. C'est pas faux ce que dit Nabil dans le.
Oui, c'est un copain. Promis, c'est un copain. Il y a un peu de ça quoi. Je veux dire, oh mon oncle, je le connais pas. Enfin, on se croirait dans la cour de récré.
Il est comment Messi?
Il est comment Messi?
Non mais c'est affligeant, c'est de la psychologie à deux balles. On a l'impression que tous les jours, il veut dire alors il est comment Messi? Alors comment il est Griezmann? Alors comment il est machin? C'est affligeant. Tout ce débat-là est affligeant. Et peut-être que c'est de la faute de Griezmann. C'est possible.
Je suis pas en train de le tirer à boulet rouge.
Non mais j'ai compris ce que.
Mais il y a un moment, il est pas dans. Je dis ok, Messi est plus grand.
Il se situe mal par rapport.
On dirait une vassalité acceptée quoi. Je veux dire, il y a un peu de ça quoi. C'est pour.
Alors il raconte que la première année, enfin comme il n'était pas venu au départ et qu'il vient un an plus tard, Messi l'a battu un peu froid. Bon, et comment va Messi France, oui, sans doute. On en a beaucoup parlé. La fameuse décision.
Le fait de ne pas avoir été la première saison alors que Messi s'était mouillé publiquement, c'est la décision et c'est la clé de comprendre cette relation vue de l'extérieur. Parce que, apparemment, selon Griezmann, maintenant tout va bien avec Messi. Mais je suis d'accord aussi avec Nabil quand il dit que c'est un peu ridicule, parce que quand il parle de la pression du public, là j'aurais aimé le voir, Griezmann avec 100 000 personnes qui le couvrent au Camp Nou.
Ouais. Et ça, il les voit pas beaucoup.
Actuellement.
Et comment va Messi, François David? Parce que ce soir, il ne sera pas en Russie, il ne joue pas avec son équipe, on l'a
en
vu.
Ukraine, en Ukraine.
Oui.
Ça a changé, Annie.
C'est la capitale de.
Changé, oui.
Non. C'était pas la Russie, c'était l'URSS, en l'occurrence. Excusez-moi, en Ukraine. Il ne sera donc pas en Ukraine ce soir. Il ne sera pas à Kiev. On l'a vu très irrité quand il est sorti de l'avion, qu'on lui a posé justement les énièmes questions.
Oui, ça doit le fatiguer.
Oui, puis en plus, sortant de 15 heures d'avion, c'était peut-être pas cool. En tout cas, il est laissé au repos. Mais Messi est-il finalement, c'est un coup de pompe physique ou moral?
Vous voulez faire dire que Messi est sur le déclin, Annie?
Non, pas du tout. C'était pas du tout. Alors là, c'était pas du tout le sens de ma question. Mais cette mise au repos, un peu sympathique.
Non, mais il est fatigué. Il est pas bien. Ça sent. Il s'amuse pas sur le terrain. Il a plus les grands joueurs qu'il avait autour de lui. Plus les Xavi, Iniesta, les Luis Suarez, qu'il avait, les Neymar. Donc il se retrouve avec des joueurs qui sont vraiment en dessous. Il est obligé de un petit peu de tout faire. Ça, on l'avait dit et redit. Il a 33 ans, il peut plus enchaîner tous les matchs comme il faisait à 25 ans. Et on sent que ça le fatigue, que sa tête, moi je pense que sa tête elle est ailleurs. Elle est ailleurs maintenant, elle est déjà à City. Où il pourra négocier tranquillement à partir du mois de janvier. D'ailleurs, Pep Guardiola, on avait parlé un petit peu à Annie avant l'émission, un projet de 2 ans. C'est pas non plus un hasard. Pour moi, Messi, il est parti. Mais il y a une saison à faire, ça reste Messi, il est toujours dans le feu des projecteurs. Mais ça sent qu'il est plus là, quoi. Il a marqué 3 buts et fait 2 passes décisives en 8 matchs. Ce sont les pires statistiques qu'on ait vues de Messi depuis des années. Je pense, moi, qu'il peut plus tenir 90 minutes, à moins qu'il marche, comme on l'a vu quelques fois, mais dans les matchs importants,
Il a toujours marché. Personne disait qu'il marchait. Maintenant, c'est moins bon. Il marche. Ah, bah non, c'est parce qu'il marche. Moi, je l'ai toujours vu marcher, Messi. Il accélère quand il a le ballon.
C'est plus possible.
Philippe Doucet, est-ce que vous le voyez, vous, Messi, à Manchester City, dans une équipe, on en a parlé hier dans l'émission, notamment avec Habib Bey, c'est pas une équipe qui va super bien non plus.
Non, et puis on sent d'ailleurs...
Ah, son milieu de tableau aussi.
On sent un peu d'ailleurs une fin de cycle, un petit peu, à Manchester City, voilà. Même si c'est difficile de l'affirmer maintenant, parce que, honnêtement, qui est bien ? Il y a deux équipes. Liverpool, le Bayern, où on dit, tiens, ça ressemble à peu près. Toutes les autres équipes, je suis désolé.
C'est deux équipes qui ont le bon push qui te permettent de tenir pour l'instant avec les absences. Il y a beaucoup d'absences aussi à Liverpool.
Non, mais Liverpool n'était pas au Final Eight. Oui. Et le Bayern a fait une vraie préparation parce que eux, ils ont fini en juin leur championnat. Ça change tout. Ça change tout. Tout le reste, tout le monde est carbo. Je suis désolé, on voit du football médiocre partout. Mm-hmm. De temps en temps, il y a un bon match, on s'extasie, on se dit incroyable. Tout d'un coup, il y a un vrai bon match, on est surpris. Mais globalement, là, on parle d'équipes qui marchent toutes mal. Elles jouent toutes mal. Le Real, la Juve, c'est zéro. Tout ça, c'est zéro. Ça joue. C'est des équipes qui sont à 60% de leur capacité, toutes. Donc, le Barça fait partie de ces équipes-là.
Et Messi ira-t-il à Manchester City?
Moi, j'y crois pas plus que ça. Je pense que tout ça n'est pas joué du tout, contrairement à ce qui est dit. Oui. Il y aura un nouveau président au Barça.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Est-ce qu'il viendra avec des ambitions? Est-ce qu'il viendra avec des joueurs?
Est-ce qu'il viendra avec Xavi, surtout?
Oui,
parce que si Xavi prend son téléphone et dit à Messi...
Par exemple.
Tu peux avoir Guardiola d'un côté au téléphone, de l'autre côté Xavi. Si Xavi dit à Messi... On repart ensemble, t'as 33 ans, on repart sur un cycle de 3 ans.
T'es pas sûr, c'est Nabil. Il a envie de coacher Messi, hein. C'est pas non plus. Tout le monde le dit pour faire bien. Mais, quand on a joué avec un joueur, quand on a joué avec un coéquipier qui faisait peut-être le plus grand joueur de l'histoire, à 33 ans, le remotiver, peut-être repartir sur un nouveau cycle.
Non, mais attention, faut savoir aussi s'il tiendra.
Ce qu'il dit aussi, c'est que sa tête est là ailleurs, Messi.
Messi, c'est pas Ronaldo, hein. Je pense que dans le travail, Messi, c'est pas Ronaldo, hein. Donc, je sais pas s'il tiendra aussi longtemps, physiquement que...
Ça fait juste 16 ans.
Non, mais
ça fait juste 16 ans de très haut niveau. Donc, si t'as des doutes sur le fait qu'il
puisse
tenir...
Non, mais si, pour la suite, à cet âge-là, je parle.
À la 18e saison, t'as un doute sur la 18e saison.
Non, mais bien sûr.
On peut avoir des doutes sur n'importe quel joueur.
Non, mais c'est ce que je dis, je parle physiquement. Physiquement, je parle pas au niveau technique.
Non, mais s'il est là, tu peux pas dire qu'il a pas travaillé. C'est le mec qui est 16 ans qu'il est au plus haut niveau. Donc, il a travaillé.
Oui, il a travaillé, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas la même chose que Ronaldo.
Il est moins heureux. Aujourd'hui, il est moins heureux dans cette équipe, c'est évident. Mm-hmm. Moins heureux dans le club, c'est évident. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent changer dans l'année, hein. Au long de l'année.
Non, mais alors, ce que je sais, moi.
Et puis, le fait qu'il soit absent à Kiev, excusez-moi, il vient de faire un nombre.
Ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais de l'enlever complètement.
Mais oui, mais maintenant, il a 33 ans. Et là, il vient de faire 15 heures d'avion.
Oui,
et
c'est de l'intelligence.
C'est intelligent.
Oui, et puis, l'équipe, elle a gagné tous ses matchs.
Même Ronaldo a été géré un moment par Zidane. Il y avait des matchs qu'il ne jouait pas non plus. Donc, bon, mais Messi peut se mettre de côté pour un match à Kiev.
Oui. Bon, alors, François David, je pense qu'on aura l'occasion de reparler du Barça.
Du Barça, des candidats, des élections le 24 janvier prochain. On a plein de choses, ouais, vont se passer.
Messi président, peut-être. Messi président.
Messi président un jour, peut-être, oui.
Merci beaucoup, François David, d'avoir été en direct avec nous depuis l'Espagne. Merci, messieurs.
À très vite, merci, Annie.
Merci pour, messieurs, pour cette émission. Et Nabil Djellit, donc à tout à l'heure, hein, avec nos confrères à 20h57.
Je reste branché sur RFI.